C'est de vous qu'est venu le sujet que je veux aborder aujourd'hui. C'est un sujet très délicat, que j'estime relativement difficile à traiter. J'espère donc ne pas décevoir trop des attentes excessives de votre part. Je voudrais lire pour introduire la première de ce que je pense devoir être trois études. Si nous manquons de temps, ce sera quatre. Mais par le texte bien connu de l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre, les versets 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ, qui nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui d'avance ont espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. C'est dans la Tobe que j'ai lu aujourd'hui mes diverses lectures, je vous le signale. Le sens de l'histoire, l'intérêt pour le sens de l'histoire caractérise les temps modernes, ceux qui commencent à la Renaissance et la Réforme. On pourrait dire que ces deux grands développements culturels, Renaissance et Réforme, représentent une double éclosion de la conscience historique. Les mots mêmes qui ont été employés montrent que les hommes de la Renaissance, comme les hommes de la Réforme, avaient le sentiment de rompre avec la période précédente, qu'il y avait un schéma structurant l'ensemble de l'histoire qui gouvernait leur appréhension des choses, leur traitement des problèmes. Renaissance, il s'agissait de permettre à toutes les valeurs de l'Antiquité de renaître après un temps aride et ténébreux. Réforme, il s'agissait de redresser, selon la norme scripturaire ancienne, ce qui avait été dévié dans l'histoire de l'Église. Dans ce double effort, il y avait déjà une certaine interprétation de l'histoire qui était impliquée. Et le contraste, bien entendu, avec les âges précédents, n'est pas un contraste du tout au tout. La préoccupation du sens de l'histoire n'était pas absente dans l'Antiquité. Et l'œuvre de saint Augustin, tout spécialement dans la Cité de Dieu, marque un jalon reconnu. On a pu voir en lui le père de la philosophie de l'histoire. Mais c'est à partir des temps modernes, à partir de la Renaissance et de la Réforme, que la préoccupation du sens de l'histoire domine la vision des choses. Et cet intérêt s'est suraiguisé au XIXe siècle, qui est le siècle des historicismes, des philosophie presque tout entière élaborée sous le titre de l'histoire. Il y a eu divers facteurs qui ont joué. Il y a eu la découverte des immenses durées du monde. Cela a certainement frappé les esprits, alors qu'on pensait jusqu'au XVIIIe couramment que le monde n'avait que quelques milliers d'années. On s'est aperçu qu'il y avait des durées immense et fructueuse. Il y a eu l'effet de la Révolution française, ou des révolutions, la Révolution américaine, la Révolution française, qui a eu un effet prodigieux sur les esprits, positifs ou négatifs, et qui ont fait chercher un certain sens de l'histoire. Il y a eu l'accélération des changements techniques qui ont donné le sentiment que le temps ne pouvait pas se comparer à un piétinement sur place, qu'il y avait un sens au devenir. L'espèce marxiste d'historicisme, qui date bien sûr du XIXe siècle, a continué à exercer son emprise très largement dans notre temps, comme vous ne l'ignorez pas. Il a exercé une hégémonie presque incontestée sur une fraction très notable du champ intellectuel pendant les trois quarts de notre siècle. Aujourd'hui, cependant, on convient que l'historicisme est en crise, que la proclamation d'un sens de l'histoire, comme tant d'adhérents au marxisme ont cru pouvoir la faire, que cette proclamation soulève des objections terribles, nul ne peut plus être sûr, il y a comme un effondrement, sans pourtant que le conditionnement général, moderne, qui fait chercher un sens de l'histoire, soit complètement aboli. On continue à prendre les problèmes comme si la perspective historiciste était la seule qui convienne, mais il y a un doute très accusé sur la possibilité de dire le sens simultanément. Il me semble que cette situation appelle un témoignage ferme et réfléchi de la part des chrétiens sur l'enseignement biblique au sujet du sens de l'histoire. C'est ce que nous allons essayer de faire apparaître après avoir parlé des propositions que l'on trouve dans le monde, que les penseurs non chrétiens ont pu faire. Mais une question préalable ne peut pas être complètement éludée. Elle n'est pas dénuée d'importance, même si beaucoup la jugent oiseuse, une question pour pur intellectuel, une question byzantine, une question pour ceux qui aiment couper les cheveux en quatre. Je vais la mentionner sans m'attarder beaucoup, parce que je crains que vous ne vous y intéressiez pas beaucoup non plus, mais il faut quand même la mentionner. C'est la question de l'objet historique. Si on dit sens de l'histoire, on suppose un objet dont on cherche le sens. Le sens d'ailleurs dans la double acception d'une direction dans le mouvement et d'une intelligibilité, une signification. La question de l'objet histoire se pose. Vous admettrez assez aisément, me semble-t-il, qu'on dise l'histoire, c'est l'ensemble des événements passés. Le sens commun s'exprimerait de cette façon. Et il y a un très grand historien du XIXe siècle, un Allemand appelé Leopold von Ranke, qui a défini le but de la science historique comme celui-ci, restituer le fait qui s'est produit comme il s'est vraiment produit. Formule est souvent répétée, souvent citée, comme les choses ont été réellement. Or, Leopold von Ranke est violemment attaqué. On l'accuse, dans les rangs des intellectuels, de naïveté positiviste. Le fait que prétendument l'historien doit retrouver et restituer, ce fait, c'est une fiction, disent de nombreux auteurs. D'ailleurs, fait par qui? Le fait de qui? Il faut admettre que les arguments des critiques en cette affaire ne manquent pas d'une certaine force. On dit un fait, un événement, l'événement. Mais quand on cherche les contours de l'événement, est-ce qu'il ne part pas en poussière dans les mains qui cherchent à l'étreindre? Un événement, c'est toujours un assemblage, une conjugaison de milliers d'événements. Vous dites l'événement de la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais c'est l'événement de tel coup de téléphone du président, c'est l'événement de telle inscription d'un nom à un moment sur une feuille. Vous pouvez émietter à l'infini. Il y a une infinité d'événement. Alors, où est l'événement? Ou bien on peut dire, cet événement, il n'est que part d'un réseau, d'une série. C'est l'intersection de fonctions. Il faut voir tout le système. Il n'y a pas un événement, un fait que l'on puisse isoler pour le reconstituer. Sous l'influence d'une théorie générale de la connaissance, ce qui est sceptique quant à l'accès au réel, touchant aussi l'effort des sciences. En gros, c'est l'influence du philosophe Kant au XVIIIe siècle qui a beaucoup joué ici. Il y a parmi les historiens, et surtout parmi les philosophes qui réfléchissent sur le métier d'historien, un doute quant à la possibilité même de rejoindre des faits, ce que l'on appelle couramment des faits. Un des auteurs les plus influents en faveur d'un tel doute, ça a été Raymond Aron. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez lu certains textes au moins de Raymond Aron, grand éditorialiste. Jeune, dans les années 30, s'était fait un nom d'emblée en philosophie par un travail de thèse sur la connaissance historique et où il se montrait très kantien et donc très sceptique quant à la possibilité de rejoindre des faits. Il est intéressant de savoir que dans ses mémoires, donc lorsqu'il est devenu vieillard avec la sagesse des ans, il s'est rétracté sur ce point. Il a retouché sa position et j'ai lu avec beaucoup de satisfaction dans ses mémoires, le spectateur engagé, que ce scepticisme qui avait été celui de ses débuts et sous influence philosophique, il en revenait et qu'il croyait que la science historique n'avait pas vraiment de place et ne fonctionnait pas si on n'admettait pas un accès possible à des événements du passé. Bibliquement, je crois qu'il faut faire comme Raymond Aron vieilli, Raymond Aron dans son âge, et affirmer la consistance objective des événements, que l'historien ne façonne pas lui-même, comme le dit la théorie plus sceptique, mais dont il reconnaît des contours qu'il possède authentiquement en eux-mêmes. Alors pour appuyer cette affirmation, que je crois biblique, je ne vais pas développer beaucoup d'arguments, mais je dirais d'une part qu'il y a la position biblique face aux théories de la connaissance, et celle de Kant en particulier. Nous n'entrons pas dans le détail, un jour peut-être pourrons-nous reprendre ce point si vous le souhaitez. Il y a aussi, parce que ça nous avertit, les conséquences que tirent certains théologiens kantiens, modernistes, libéraux, et qui sont à l'évidence opposés aux thèses que la Bible elle-même nous invite à défendre mordicus. C'est sous l'influence de cette théorie de la connaissance, de cette théorie quant aux faits historiques, que certains nous disent « Vous êtes des positivistes comme Ranke quand vous affirmez à toute force que le tombeau était vide, que la résurrection de Jésus est un événement historique et que sans cela, eh bien, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Mais c'est cette mentalité naïve positiviste qui croit qu'il y a des faits du passé qu'on peut aller ensuite repêcher en quelque sorte. Les théologiens libéraux sont sous l'influence de cette théorie de l'histoire. Or le contraste avec Paul dans 1 Corinthiens 15 qui affirme cette réalité de l'histoire attestée par des témoins oculaires, etc., est comme vital pour notre foi, nous montre bien que c'est une influence pernicieuse. Cela nous avertit. Je pense qu'il faut dire aussi qu'en vertu de la doctrine de la création, c'est un thème qui, ces derniers temps, m'occupe beaucoup plus que par le passé, il y a une identité ferme des êtres créés. Je crois qu'une partie de la difficulté à propos de cette notion d'événement vient de ce que sans un Dieu créateur, avec un monde qui n'est qu'un réseau de fonctions interdépendantes, beaucoup de penseurs n'ont pas de quoi assurer l'identité individuelle d'un événement ou d'une personne. Nous ne sommes que des entrecroisements de vibrations, des champs de force, des plis dans des champs de force, des remous. Voilà ce qui est la perspective de beaucoup et en un sens, il me semble. S'il n'y a pas de créateur distinct du monde qui ait une identité définie, on pourrait-on dire encore en quelque sorte ponctuelle, et qui assure ainsi dans le monde une réplique de cette identité ponctuelle qui est la sienne, en effet, nous ne pouvons pas être sûrs d'exister comme des nous-mêmes. C'est le Créateur, en tant qu'il est distinct de tout ce réseau du monde, qu'il nous crée en son image, nous nomme de notre nom, qui nous assure une identité propre à travers tous les changements, à travers tout le jeu de relations dans lequel nous sommes impliqués. Nous ne sommes pas réduits à un nœud de relations. Nous avons une existence, une identité propre, parce qu'il y a un Dieu qui la fonde, qui la garantit. Et quant au fait historique, qui est un événement affectant des personnes, je crois que c'est la réponse au bout du compte. C'est ce Dieu qui assure le fait historique de sa consistance. Même s'il est toujours en relation, il n'est pas épuisé en quelque sorte par le jeu des relations. Il a une identité propre, il y a comme une granulation dans les réseaux de la réalité cosmique et historique, et c'est ce qui donne son identité au fait et permet d'en parler. Et quant à l'échelle, parce qu'on peut dire, oui, mais c'est arbitraire, vous voyez les choses à l'échelle de l'homme, mais l'histoire pour le microbe, ou l'histoire pour les galaxies, c'est tout. Et vous relativisez tout comme ça, et tout perd son sens. Là encore, je crois que c'est l'appui sur la révélation biblique qui nous permet de dire, l'homme créé en image de Dieu donne sa signification au cosmos tout entier, et donc les événements à échelle humaine sont des événements qui ont consistance. Une consistance dernière parce que Dieu a fait l'univers pour l'homme. Vous voyez, toutes les questions qui sont engagées, en fait, dans un tel débat sur le fait historique. La mort d'une personne humaine créée en image de Dieu, c'est un événement qui a sa consistance propre, sa naissance. Les alliances, cela a consistance propre. Voilà ce que je dirais sur ce point en quelque sorte préalable, mais ayant donc assuré la base, il y a des faits historiques qui au bout du compte sont faits de Dieu. Quel est le sens de leur ensemble, s'il y en a un? Je présenterai là trois parties dans mon exposé. D'abord, je m'interrogerai sur les procédures. Comment peut-on faire pour essayer de trouver un sens? Deuxièmement, je résumerai les propositions principales dans le champ de la pensée humaine. Et troisièmement, j'essaierai d'esquisser ce qui est le sens selon l'Écriture, selon la révélation biblique. Comment dégager le sens de l'histoire? Même si les faits sont une donnée ferme, il n'est pas facile de discerner ni l'orientation, ni la signification. Et l'Écriture elle-même nous en avertit. J'ai été frappé en me préparant par un détail qui jusqu'à présent m'avait semblé un détail comme ça. C'est un peu bizarre quand même. Dans le psaume 78, qui est un psaume qui tire des leçons de toute l'histoire d'Israël, qui est une sorte de théologie de l'histoire d'Israël sous forme de psaume. Donc dans le psaume 78, l'introduction dit, je vais ouvrir la bouche au verset 2, pour une parabole et dégager littéralement les énigmes du passé. C'est le mot énigme qui est mentionné à propos des événements qui sont ensuite rapportés. Parce que le sens des événements et de leur séquence garde quelque chose d'énigmatique. Cela est vrai peut-être spécialement de l'histoire d'Israël, dans la mesure où les choses qui sont arrivées à Israël avaient un sens figuratif. Cela accroît le caractère énigmatique. Et je pense que cela peut se dire de manière très générale de l'histoire. Elle a un aspect énigmatique qui implique la nécessité de réfléchir aux procédures. Ce n'est pas une évidence d'emblée qui éclate à tout regard. La démarche normale semble être la recherche d'une configuration régulière, ordonnée, parmi les événements qui se sont produits dans le temps et dont on a gardé la mémoire. Parce que pour constituer l'histoire, à partir des faits, des événements, c'est la mémoire qui sert de truchement. Si on observe un ordre que le hasard n'expliquerait pas, alors on pourra se dire, là, il y a un sens probablement, et on pourra tenter d'extrapoler. Alors comment découvrir un sens? Bien, s'il y a une disposition linéaire, si on a des phénomènes de même nature qui se rangent comme en ligne, avec un accroissement d'intensité. Voilà, là, ça indique une direction, c'est probablement un sens. S'il y a des répétitions, s'il y a des symétries, des parallélismes, alors on pourra estimer qu'il y a un sens derrière. Très souvent, les analogies de la croissance des êtres vivants dans leur cycle individuel sera adoptée. Si on voit quelque chose qui ressemble un peu à la croissance d'un enfant, à sa maturation, peut-être aussi à la vieillesse, on dira, voilà, si ça ressemble, il y a là un sens qui peut se discerner. On pourra aussi rechercher, ça me semble, une deuxième procédure, quels sont les facteurs déterminants dans le jeu des événements? Quels sont les ressorts? Qu'est-ce qui cause le reste, ou semble causer plus particulièrement le reste? En langage marxiste, qu'est-ce qui est infrastructure qui détermine pour le marxisme? Ce sont les réalités économiques, les rapports de production économique qui constituent l'infrastructure, la base. Le reste est superstructure, déterminée par les rapports économiques. Lorsqu'on discerne ce qui est vraiment infrastructurel, alors on a l'impression de comprendre ce qui s'est passé. Une intelligence du passé, une interprétation semble possible, on est sur le chemin d'un sens de l'histoire. Voilà, me semble-t-il, grosso modo, si on s'en tient aux ressources de la nature humaine, comment on peut estimer trouver le sens de l'histoire en extrapolant à partir de la découverte d'un ordre. Mais d'emblée, mentionnons les handicaps qui frappent l'entreprise de précarité. Les événements, même si on accorde qu'il y a des événements qui gardent quelque consistance, foisonnent à tel point. Il y en a une telle multiplicité dans l'histoire que on se demande toujours si la sélection de ces événements pour faire apparaître un ordre n'a pas été arbitraire, n'a pas correspondu simplement au choix qu'avait fait l'historien ou le philosophe de l'histoire qui a choisi précisément ce qui va lui donner une ligne des symétries. Il y a tellement de choses entre lesquelles on peut choisir que est-ce que vraiment ça se dégage des événements tels qu'ils se sont produits comme un dessin propre des faits, ou bien est-ce que c'est un arrangement produit par la sélection? On sait déjà que dans sa propre histoire personnelle, on sélectionne furieusement. On se fait une image de son enfance qui est très loin de correspondre à l'image que les frères et sœurs se sont fait, et que les parents ont eu. Il peut y avoir des décalages prodigieux en fonction de cette sélectivité. Alors, voilà qui commence à décourager. Il y a l'information lacunaire. Je dis qu'il y a une telle multitude de faits, mais souvent en ce qui concerne les événements du passé et d'autres générations, le problème c'est que ce qui a été préservé par la mémoire collective, ce n'est qu'une infime partie, un millionième peut-être, des événements intéressants. Alors, est-ce qu'on ne se condamne pas à un travail vain d'avance si l'on prétend déterminer le sens de l'histoire en fonction d'un échantillonnage tellement limité sur les faits qui se sont produits? Lorsqu'on cherche les facteurs déterminants, là aussi, c'est la complexité, la multiplicité et l'enchevêtrement qui semble frapper l'entreprise d'impuissance. On dit c'est tel facteur, mais ce facteur lui-même qui paraît la cause est causé par d'autres. Et on peut tourner en rond. On dit ce sont les rapports de production, dira un marxiste pour commencer. Puis il montrera par exemple que le jansénisme, ça a été l'ouvrage de Lucien Goldman sur Pascal et Racine, que dans son livre Le Dieu caché, que le jansénisme est un produit parmi les superstructures, des infrastructures, des rapports économiques de l'époque. Oui, mais ces rapports économiques, dans l'exposé qu'en fait Marx lui-même, ils sont très dépendants des inventions de la technologie, en fait. Et ça a été une critique adressée à Marx. Il dit que c'est l'économie, mais en fait, en disant par exemple, le moulin à bras a créé la société esclavagiste, le moulin à eau, la société féodale, le moulin à vapeur, la société industrielle, ou le capitalisme, lorsqu'il dit ça, en fait, ce qu'il privilégie, ce n'est pas une réalité économique, c'est un certain niveau de technique. Ce sont les inventions qui deviennent décisives. Alors, si on dit la technique, c'est déjà différent. Mais la technique elle-même, on le sait, dépend pour une très large part des sciences. Et les techniques modernes n'auraient pas été possibles sans le développement des mathématiques, par exemple, et d'autres sciences. Mais le développement des sciences elles-mêmes est étroitement lié aux configurations idéologiques dominantes. Et on a pu noter, je vous l'ai dit, que l'essor de la science moderne ne s'est produit nulle part ailleurs que dans le milieu christianisé, parce que seule la vision chrétienne du monde pouvait libérer l'essor scientifique moderne. Même sécularisé, c'était cette vision-là qui était indispensable à la pratique théorique et expérimentale des savants. Alors on en arrive au motif religieux. Vous voyez comment on tourne lorsqu'on cherche des facteurs décisifs ou déterminants en dernière instance, comme selon la formule marxiste. Difficulté, à certains égards peut-être plus grande encore, nous n'avons jamais que des séquences partielles à étudier, des fragments de cette histoire dont nous cherchons, dis-nous, la pensée humaine, dont nous cherchons à lire le sens. Or, au moins affirmé certains, on ne peut déterminer le sens que quand la totalité est achevée, quand le tout est réalisé, quand on est parvenu au but. Jusque-là, on ne peut pas savoir le sens d'un élément particulier, il peut tout à coup se renverser. Je me rappelle, mais vaguement malheureusement, je n'ai pas fait le travail d'une recomposition, mais je me rappelle une histoire venue des Indes, d'un sage, un gourou, je ne sais pas lequel, que m'avait raconté une fois un journaliste qui avait fréquenté un de nos congrès, qui visait précisément à montrer cette instabilité du sens tant que l'histoire n'est pas achevée. C'était une histoire où il y avait sans cesse un renversement du malheur en bonheur et du bonheur en malheur. Par malheur, pour un petit enfant, dans le palais de Maharaja, on le kidnappe, malheur de cet enfant. Par malheur, il est emporté. Mais par bonheur, il échappe ainsi à l'incendie qui ravage le palais. Mais par malheur, cet incendie fait que le principal rival de la famille vient au pouvoir. Mais par bonheur, cela même suscite une autre réaction, etc. Vous voyez, et ça se renverse de cette façon, avec un peu d'imagination. On peut composer ce type de récit. L'histoire est pleine de ce qu'on appelle parfois des ironies de l'histoire, où il y a des renversements qui se produisent. Une ironie toute proche de nous, c'est l'ironie que la victoire de la gauche en 81, aux élections, a amené la fin de l'espérance socialiste, ou pratiquement, et de son emprise sur l'opinion française. Et que ce sont les socialistes qui ont réconcilié le pays avec ses entreprises. En fait, on peut plaider que Giscard faisait une politique plus social-démocrate que ne l'ont fait les socialistes. Enfin, disons, ces ironies, n'est-ce pas, de l'histoire, ces renversements qui se produisent. Alors on peut plaider que tant que l'histoire n'est pas finie, tout est toujours en suspens de ce sens, et que nul ne peut donc énoncer le sens. Un théologien non évangélique, un théologien allemand contemporain, Wolfhard Pannenberg, a bâti un peu toute sa doctrine là-dessus en disant « le sens n'advient qu'avec la totalité ». Alors, ça veut dire que personne ne peut rien commenter du sens de l'histoire. Si, dit-il, parce que la fin, qui seule livre le sens, est anticipée dans la résurrection de Jésus-Christ. Alors, par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons dans l'histoire, déjà la clé de l'histoire, puisque c'est la fin, il y a les prémices, la fin, établissant le sens, qui est anticipée. Que dire de cette thèse? Eh bien, je dirais à la fois qu'elle est belle et bonne si on se place sur le sol biblique, si on admet l'autorité de la Bible pour nous révéler ce qu'il en est de la fin et de la résurrection de Jésus-Christ, mais que, comme Pannenberg, lui, essaye de s'en servir, alors c'est tout à fait insuffisant. Parce que Pannenberg, tout en disant ça, et je dirais d'accord, hein, tout en disant ça, refuse l'autorité biblique. Il veut traiter la Bible comme n'importe quel autre livre. Il ne la considère pas comme une révélation divine. Et d'autre part, en plus, ne veut pas que l'histoire soit conduite par une nécessité. Il refuse l'idée d'un plan de Dieu où tous les événements seraient programmés, ou bien d'une logique interne où tout serait décidé. Il veut garder à l'histoire sa pure contingence. Mais alors je dis, refusant l'autorité biblique, refusant une nécessité interne à l'histoire, le reste s'effondre. Comment sait-il que la fin, c'est la résurrection, et que la résurrection de Jésus est l'anticipation de la fin? S'il refuse que la Bible le lui dise comme une autorité capable de le lui dire, c'est lui qui affirme ça, mais la fin n'étant pas arrivée, personne ne peut savoir ce que sera la fin, et par conséquent que la résurrection est une anticipation de la fin. Il dit c'était comme ça chez les juifs, c'était comme ça dans le milieu apocalyptique juif. Oui, mais il pouvait se tromper. C'est pas une autorité. À partir du moment où il refuse l'autorité biblique. Ça, c'est la première faiblesse de sa thèse. Deuxième faiblesse de sa thèse, donc, il veut garder une histoire ouverte, tout en dépendant beaucoup du philosophe Hegel, qui avait une histoire entièrement programmée, conduite par une logique interne inexorable, tout en étant beaucoup influencé par lui. Il refuse cette idée d'une logique interne inexorable, et il veut garder une histoire ouverte où tout peut arriver, pure contingence. Mais à ce moment-là, je dis, il n'a aucune raison pour dire qu'à la fin, c'est le sens du tout qui va apparaître. Parce que ça peut être un chaos total, sans aucun sens. Si ce sont des événements qui arrivent comme ça, par hasard, dans tous les sens, c'est pas parce que ça s'arrête un jour, en admettant que ça s'arrête, qu'il y aura un sens. Pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait soit une logique, soit une intention. Mais cela, Pannenberg ne l'admet pas. Il ne se le donne pas dans son schéma. Donc je crois que sa thèse, finalement, est radicalement insuffisante, inadéquate. Alors que faut-il pour avoir connaissance du sens de l'histoire? Je ne vois pas, pour ma part, d'autre façon d'être sûr que la réception d'une parole qui vienne d'au-delà de l'histoire, d'un Dieu qui soit au-dessus de l'histoire. Je crois que c'est la seule façon pour nous, dans l'histoire, de savoir le sens de l'histoire. On peut autrement discerner, oui, des régularités, avoir certains pressentiments, il y a des séquences qui semblent porteuses de sens, intelligibles, mais ça reste tellement précaire. Parler d'un sens de l'histoire au singulier, ce n'est, me semble-t-il, pas possible de manière vraiment responsable s'il n'y a pas une révélation pour nous l'enseigner. Voilà, en ce qui concerne la procédure, la façon d'atteindre au sens de l'histoire, ce que je vous suggérerai. Mais les penseurs ont quand même essayé de se passer de révélation. Et quelles sont les propositions sur le marché, pourrait-on dire, en ce qui concerne le sens de l'histoire ? J'en ai retenu 4 principales. Dans les sociétés les plus archaïques, celles où la technique est la moins évoluée, où ce sont des sociétés peu nombreuses et relativement peu complexes, ce que les spécialistes nous disent, c'est que l'histoire ou le temps, on peut peut-être même pas parler d'histoire, le temps est perçu, compris, interprété comme ce qui use le sens. Foncièrement, c'est l'usure. Tout s'use, c'est là l'effet du temps, donc le sens du devenir, et il faut essayer de neutraliser, si on peut, cette usure. Le mythe que l'on joue dans le rite, a pour fonction de rajeunir le monde, de le faire revenir à sa source, de neutraliser le temps qui a passé. Lévi-Strauss dit du mythe, c'est une tactique d'annulation de l'historique. Donc, on peut dire qu'il y a un sens dans ce premier schéma, le sens de l'usure, et il y a un certain appui sur l'expérience, après tout, c'est pas si bête. Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. C'est vrai que tout s'use. Tout finit par casser. C'est vrai aussi que le temps conduit à la mort, les êtres vivants. Donc il y a un premier schéma où le sens paraît l'usure, mais on pourrait dire que c'est un sens négatif, que c'est un non-sens de l'histoire. Ça, c'est le premier grand modèle qui peut encore se retrouver parfois dans les vues les plus pessimistes. Dans les civilisations antiques, civilisations déjà plus élaborées, l'histoire semble comprise principalement selon la figure du cercle. On boucle la boucle. C'est une vue cyclique de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de toujours ramener au même point, mais selon un trajet dont on peut repérer les étapes principales. Il y a souvent le thème de la décadence. Il est chez Platon et chez d'autres. De l'âge d'or, on passe à un âge d'argent, de fer, de bronze. On descend en valeur jusqu'à une ruine qui fait ensuite reprendre le même circuit. Les stoïciens avaient ce qu'ils appelaient la grande année pour ce circuit. C'est la vision cyclique qui est appuyée principalement sur l'observation des astres, qui font des circuits, qui donnent une image de ce que le temps peut être à son niveau suprême. Ce mouvement circulaire, les révolutions, sens premier du terme, les révolutions des étoiles. Il y a la récurrence des saisons, l'aspect cyclique du temps. Il y a bien un aspect cyclique. Et aussi du retour des générations. Chaque génération, comme la suivante, ça semble un peu comme un cycle, chaque fois qu'il boucle la boucle. On peut dire aussi qu'il doit y avoir certaines lois psychologiques et sociologiques qui jouent pour donner forme de cycle à certains phénomènes historiques. Je pense qu'on peut repérer que lorsqu'un groupe vient au pouvoir, il y vient grâce à des qualités d'initiative, d'audace, de brutalité, etc. Puis venu au pouvoir, il s'amollit. Venu au pouvoir, il gère sa victoire, il profite de ses privilèges, cela modifie sa psychologie, cela modifie les qualités mêmes de ceux qui ont le pouvoir, et du coup, on arrive à une phase de décadence où les élites de plus en plus corrompues sont incapables de retenir le pouvoir et finalement cèdent sous l'action d'un nouveau groupe juvénile et brutal, etc. Oui. Bon, cela s'est produit et reproduit et reproduit. C'est vrai qu'il semble qu'il y a des lois sur les réactions humaines face à l'adversité et face à la facilité qui peuvent donner ainsi une sorte de forme cyclique. On a une telle forme cyclique dans certains passages bibliques. Le livre des Juges nous présente un peu cela. Les enfants d'Israël sont opprimés par leurs ennemis. Alors ils crient à l'Éternel. Qui leur envoie un juge sauveur, qui les délivre de leurs ennemis, et puis dans la paix qui s'ensuit, ils s'amollissent à nouveau, ils se détournent de l'Éternel, auquel ils avaient crié, et pour les châtier, l'Éternel leur envoie un nouvel oppresseur, qui les ramène de nouveau à des sentiments de repentance, etc. Vous voyez, on voit ça dans le livre des Juges, c'est un schéma de caractère cyclique. Si on extrapole, donc, on peut prétendre que l'histoire tout entière a un caractère cyclique. Et il y a encore des penseurs modernes qui adoptent un tel point de vue. Je pense qu'un des philosophes de l'histoire les plus prestigieux de notre siècle, Arnold Toynbee, présente un peu l'histoire des 20 grandes civilisations qu'il a étudiées. Il en distingue 20 comme un cycle avec un défi que relève une minorité inventive, audacieuse, et puis un temps, en quelque sorte, de pouvoir pour cette minorité, et puis une décadence, elle devient incapable de répondre à de nouveaux défis, et ainsi la civilisation finit par s'écrouler. L'histoire, en quelque sorte, cyclique des diverses civilisations. On peut dire qu'il s'agit d'un sens de l'histoire, on peut dire aussi qu'il s'agit d'un non-sens raffiné, car un cycle qui revient indéfiniment, c'est aussi une figure de l'absurdité. Ce qu'avait perçu, semble-t-il, Nietzsche, lorsqu'il est revenu à l'idée de l'éternel retour, de ce non-sens dans son livre « Au-delà du bien et du mal », il y a la formule en latin « circulus viciosus Deus », »« cercle vicieux Dieu ». C'est à la fois l'ultime réalité, Dieu, un cercle, cercle vicieux. C'est un blasphème, mais en même temps, cela montre une certaine lucidité par rapport à cette thèse qu'il affirmait de l'éternel retour. C'était, vous savez, le blasphème, alors Nietzsche, vous en trouvez pratiquement à toutes les pages, ou presque. Il s'en est fait une spécialité. Troisième schéma, les modernes, et je crois non sans avoir subi l'influence de la christianisation de l'Europe, ont adopté une vision linéaire et progressiste de l'histoire. Une vision qui rompt avec le schéma cyclique, même s'il reste quelques brins de cycle ici ou là, une sorte de spirale. La vision de l'histoire, de façon prédominante, est celle d'une ligne fléchée, en quelque sorte, qui va vers un but qui lui donne son sens. Qu'est-ce qui a inspiré cette vision progressiste de l'histoire ? Il y a le succès des sciences, succès fantastique, un essor qui a vraiment donné l'impression que rien n'était plus comme avant, que l'on ne pouvait plus, en quelque sorte, confondre toutes les époques dans un même schéma. La science critique et expérimentale avait de tels succès dans la découverte des réalités mondaines et dans les techniques qu'elles permettaient, que cela a donné une confiance extrême. Le sens de l'histoire, c'était l'émancipation de la raison et sa conquête du monde. Tout le siècle des Lumières me semble influencé par cette vision linéaire, où le thème de la raison et de la libre raison, qui secoue toutes les chaînes des dogmes, est un thème tout à fait privilégié. Il y a un penseur italien, Giambattista Vico, qui a forgé un schéma qui a ensuite été repris très très largement, un schéma triadique à ce propos, distinguant trois âges, un âge qu'il appelait lui divin, que Auguste Comte a appelé théologique, un âge où c'est la prétendue réalité des dieux qui commande tout, où tout est imprégné de religion, où la forme de connaissance est enveloppée dans les mythes. Puis ensuite l'âge héroïque, disait-il, l'âge de l'aristocratie, l'âge des conquérants, ce qui correspond plus ou moins là à l'âge métaphysique d'Auguste Comte, où ce sont les idées qui jouent le rôle décisif, la pensée des essences que l'on découvre, pour aboutir à l'âge démocratique, ou l'âge positif dans le langage d'Auguste Comte, qui est marqué par le succès des sciences, par la démocratie aussi en matière politique, par une pensée de type beaucoup plus fonctionnelle, diront d'autres auteurs. C'est un schéma qui a beaucoup d'influence encore aujourd'hui. Elle s'est liée au XIXe siècle avec des perspectives évolutionnistes, vitalistes, l'élan vital, tout ce qui conduit ce mouvement, ce n'est pas seulement le progrès de la raison, mais c'est l'invention de la vie qui va de l'avant, qui est une grande montée de la vie. Je pense qu'on peut dire que chez Teilhard de Chardin, nous avons une vision de l'histoire qui unit le vitalisme évolutionniste, d'une part, et d'autre part, ce thème de la montée de la conscience, puisque selon lui, la grande loi de la vie montante, c'est la loi de la complexité conscience. Le degré de complexité augmente et le degré de conscience augmente concurremment. Voilà la grande loi de toute l'évolution, et y compris l'histoire humaine, qui est le chapitre finale de cette histoire, pourrait-on dire. Cette pensée évolutionniste continue d'avoir de l'emprise sur nos contemporains, je crois. Il me semble que la tendance des 10 ou 15 dernières années a été de privilégier le désordre, le rôle d'un espèce de désordre créateur dans ce progrès, mais il y a quand même progrès, ce progrès évolutif, et cela a été aussi utilisé quant à l'idée de sens de l'histoire, bien que on soit devenu, dans les années 80 en particulier, beaucoup plus prudent à propos d'une telle formulation. Certains admettent le schéma, mais considèrent que nous sommes comme dans une phase d'involution, qu'après qu'il y a eu ainsi monté, il y a comme une rechute, retour, régression à des formes plus anciennes, retour à une sorte d'indistinction du monde et de l'homme, par exemple, déculturation. Je pense, j'ai l'impression, je ne l'ai pas relu récemment, mais je l'ai lu il y a quelques années, 2 ou 3 ans, au livre de Finn Gilkraut sur la défaite de la pensée, Alain Finn Gilkraut. Il me semble qu'il y a une tendance à admettre le schéma évolutif, mais en le retouchant de façon pessimiste quant à la phase où nous sommes. Et puis, 4e schéma, depuis Hegel, donc depuis le début du 19e siècle, une version dialectique dans laquelle le conflit est le moteur du progrès. Donc c'est toujours une vision progressiste, mais au lieu que ce progrès soit vu de façon linéaire ou même stimulé par un désordre qui crie du neuf, c'est carrément le conflit qui est ensuite surmonté, qui est considéré comme le moteur même, le conflit, la contradiction. Alors la version de Marx, bien sûr, avec la lutte des classes comme forme du conflit, étant la plus connue, celle qui s'est répandue le plus largement. D'où vient ce rôle nouveau qui a été donné au conflit, au contradictoire, à ce qu'on a appelé très classiquement le mal, dans le sens de l'histoire, le progrès, ainsi vu. Je pense que les influences suivantes ont été les plus importantes. Il y a eu l'influence chrétienne. Hegel a utilisé les thèmes chrétiens. C'est l'image de la croix, comme le plus grand mal enfantant le plus grand bien, qu'il a essayé de reprendre philosophiquement, en faisant du mal, des horreurs, des guerres, etc., le moteur même du progrès historique. Il a appelé sa philosophie un vendredi saint spéculatif. Donc c'est très consciemment qu'il a repris les thèmes chrétiens. Mais je pense en les dénaturant profondément. Mais c'était une influence. Deuxième influence, l'effet de la Révolution française. Hegel s'est enthousiasmé pour elle, et beaucoup d'autres, à son époque, ça a été vraiment un effet énorme. Le thème de la Révolution, depuis la fin du XVIIIe siècle, a joué un rôle très important pour la plupart des intellectuels, et jusque dans les années 70, au moins de notre siècle. Or, le thème de la Révolution privilégie le conflit. On ne se contente plus d'évolution. Si on glorifie la Révolution, c'est que l'on pense que c'est du conflit, du heurt, que jaillira le progrès. Et puis, il y a eu, me semble-t-il, une radicalisation de la valeur historiciste. Si l'on veut vraiment faire de l'histoire la seule réalité, l'ultime, donc du changement, il ne faut plus qu'il y ait du fixe, comme en quelque sorte, échappant à l'histoire, jugeant l'histoire. S'il y a une vérité fixe, même abstraite, elle est au-dessus de l'histoire. La volonté de Hegel et de ceux qui l'ont suivi a été, me semble-t-il, de radicaliser la glorification de l'histoire. D'où cette introduction de la contradiction, du mal. Parce que si on refuse la contradiction, on a une loi de non-contradiction qui domine l'histoire. Donc l'histoire n'est pas le terme ultime, ce n'est pas la réalité absolue elle-même se développant. Tout cela, je crois, a conduit à ces visions-là. Alors, quel est le schème rival que la Bible nous invite à admettre, elle qui, d'une certaine façon, est la terre natale du sens de l'histoire face aux visions cycliques de l'Antiquité? C'est elle qui a proposé une histoire orientée parvenant à un but, une histoire qui se déroule une fois pour toutes. Voici les points principaux qui me semblent à mentionner à propos de la vision biblique de l'histoire, et nous avons lu Éphésiens 1, à titre introductif à cet égard. Je me contente juste des points principaux dans les 5 minutes qui restent. D'abord, il faut souligner que pour la Bible, l'histoire n'est ni un chaos, une série incohérente de choses qui se produisent par hasard et donc dans tous les sens, et qui n'ont pas d'unité, au bout du compte pas de sens, ni la réalisation d'une logique immanente, un programme auto-géré en quelque sorte, se déroulant selon les lois d'une logique mécanique ou dialectique, peu importe. Hegel était très lucide à propos de sa position qui faisait que l'histoire avait sa propre logique interne. Il disait, de l'impression qu'ont les hommes et les grands hommes de faire l'histoire par leur libre décision, que c'était une ruse de la raison. C'est l'expression qu'il emploie plusieurs fois, ruse de la raison. En fait, c'est la grande raison universelle qui, à travers la contradiction, se réalise. C'est l'histoire, il n'y a rien au-delà. Et les hommes ne sont que des moments de ce système en devenir. C'est parce qu'ils ne saisissent pas ce qui est la réalité en cours qu'ils s'imaginent décider du destin, quand ils vont à gauche ou à droite. En fait, leur illusion, c'est une ruse de la raison. Elle les manipule en quelque sorte, entièrement. Mais l'expression « elle les manipule » est imagée parce que elle n'a pas un être distinct. Il y a la seule réalité du monde en devenir, qui est la raison. Hegel était lucide, une telle vision annihile toute liberté et véritable responsabilité humaine. Manifestement, ce n'est pas la position biblique. La position biblique est qu'il y a un plan, un mystère de la volonté divine qui se réalise, un conseil de Dieu selon lequel il mène toute chose et qui intègre les libres décisions des humains. C'est un projet libre de la part de Dieu dans lequel la liberté faite à son image de la créature humaine s'exerce. Ce n'est pas une logique immanente qui se réalise. Mais ce n'est pas non plus, puisqu'il y a un plan librement conçu par un Dieu au-dessus de l'histoire, ce n'est pas non plus une incohérence. Il y a un plan où tout prend son sens. Voilà la vision biblique, premier point. Deuxième point, l'événement clé dans le déroulement de ce plan de Dieu, et c'est ce que nous apprend la révélation, sans ça nous ne pourrions pas le déterminer, c'est la venue du Christ. C'est lui qui est au cœur du mystère de la volonté de Dieu, d'après le texte que nous avons lu. C'est la venue du Christ qui accomplit la rédemption, c'est en tant que telle qu'elle joue le rôle déterminant que nous avons lu. Ce qui présuppose le péché, ses dégâts, et le péché lui-même et les dégâts qu'il a commis présupposent le cadre préalable de la création. La distinction entre la création, fondation du monde, et le péché survenu n'est pas explicité dans le texte de l'Éphésiens que nous avons lu, mais vous le trouvez ailleurs très très clairement, par exemple Romains 5, c'est par un homme que le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, etc. La vision biblique est une vision en quelque sorte à 3 grands volets, avec la création qui pose les bases, qui fournit le cadre, la chute, la déchéance, la rébellion humaine et la rédemption accomplie par la venue de Jésus-Christ. C'est ce schéma ternaire, me semble-t-il, qui est fondamental. Alors, le cadre créationnel implique aussi des éléments de devenir orientés et progressifs qui donnent une certaine mesure de validité à certaines des conceptions que nous avons vues. La conquête à laquelle Dieu invite les premiers humains, soumettez la terre, sera progressive. Et en fait, étant l'œuvre d'une humanité nombreuse, de plusieurs générations, elle possède un caractère cumulatif. Or, le caractère cumulatif des techniques agricoles, puis artisanales, industrielles, etc., des techniques et du savoir humain qui se transmettent génération en génération et s'accroît, donne un caractère orienté à l'histoire humaine dans son ensemble. Et c'est fondé, bibliquement, dans ce qu'on appelle le mandat culturel, dans ce « soumettez la terre » et dans les capacités données à l'homme pour cela. Et l'autre élément me semble être l'élément cyclique. Il y a un aspect cyclique que l'Ecclésiaste en particulier a mis en lumière, mais qui se trouve bien dans l'histoire de l'homme. Comment le comprendre? Je suggère que c'est par le cycle que l'homme peut mesurer le temps. Que si nous n'avions pas des récurrences cycliques, nous serions incapables de mesurer la durée, donc de planifier, donc d'exercer notre liberté dans le monde. D'où un certain aspect cyclique qui peut être préservé. Troisième grand point, j'ai dit la venue de Jésus-Christ. En fait, plusieurs dédoublements doivent être observés et structurent la vision biblique de l'histoire. Il y a bien sûr le dédoublement avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. La préparation de sa venue et puis l'œuvre même de sa venue. Mais, du fait que Dieu suscite l'homme comme créature en son image, libre à l'image de sa liberté à lui, il doit y avoir un temps pour la réponse humaine à la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Et cela implique un dédoublement, deux venues de Jésus-Christ. Une première venue dans laquelle il accomplit la rédemption, mais un temps ensuite pour que les humains l'acceptent par un acte de liberté répondant à l'offre divine. D'où un temps pendant lequel le vieux monde est maintenu en sursis, où la logique de la création continue de courir, de l'accumulation des connaissances par exemple, et où la parole de la rédemption est diffusée dans le monde, en attendant donc la conclusion qui est la deuxième venue de Jésus-Christ. Et dans tout ce temps, c'est impliqué dans ce que je viens de dire, dédoublement des attitudes humaines, acceptation ou rejet. Enfin, dernier point dans cette vision biblique, le but est la gloire de Dieu. C'est le dernier mot du paragraphe que nous avons lu, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est là la fin dernière qui est assignée au cosmos et à l'histoire, donc, dans la perspective biblique. Alors là, pour creuser, il faudrait d'une part déterminer ce qu'est cette gloire. Je crois que la pensée du resplendissement de tout ce que Dieu est, remplissant toutes ses créatures, reflétées par ses créatures, c'est cette pensée qui devrait nous guider. Il y a le thème très riche pour la méditation du plus que l'histoire implique. Dieu n'a jamais manqué de gloire et pourtant il ajoute à sa gloire par l'œuvre de l'histoire et en particulier par la rédemption qu'il accomplit en Jésus-Christ. Alors ce plus mérite d'être médité. Je n'en dis pas plus long pour aujourd'hui, puisque il faut que nous respections les temps. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en reparler. Il y a quand même encore deux autres points concernant le sens de l'histoire selon la Bible qu'il me semble nécessaire d'étudier plus à fond. Il y a la question d'Israël, le mystère d'Israël, qui est évoqué dans Éphésiens 1, quand il dit au verset 11, « Nous avons était prédestiné pour être ceux qui d'avance ont espéré dans le Christ. » Et puis ensuite, il dit « vous ». Le « nous » veut dire « nous, les Israélites », en tout cas les croyants parmi les Israélites, « vous, vous, les Éphésiens, d'origine païenne ». Et il nous faudra, je crois, parce que c'est très important dans les perspectives bibliques, revenir sur le mystère d'Israël. C'est ce que je prévois de faire au mois de juin, du coup là. Et puis, l'autre grande question que nous avons effleurée, mais non pas suffisamment touchée, c'est celle du mystère d'iniquité, de la manière dont le mal entre dans ce schéma de l'histoire. Nous avons, dans les questions apologétiques que nous avons traitées, parlé du problème du mal, mais je pense qu'il y a encore des choses à dire que je pourrais vous proposer sur cette place du mal dans l'histoire et par rapport au sens de l'histoire. Voilà donc l'exposé que je voulais faire, Monsieur Richard.
Inclure la question des prophéties, du rôle des prophéties et des textes bibliques qui ont l'air de faire référence à des événements précis qui ne sont pas encore survenus.
À propos d'Israël, nous pourrons toucher cela. Effectivement, je crois que je ne pourrais en tout cas pas éviter de toucher ce point. Oui, en ce qui concerne le ministère d'iniquité aussi, je pense pouvoir le toucher, mais je ne suis pas sûr de le faire autant que tu l'as à l'esprit. Et
Si j'ai beaucoup à l'esprit.
Et de toute façon.
Entre certains textes prophétiques et des événements historiques qu'on ne sont pas, qu'on n'a pas reconnus dans le passé et que l'on pense qu'on attend.
Oui. Je crois que dans nos entretiens, parce que, bon, aujourd'hui, je n'ai pas laissé de temps pour les entretiens, d'une part, parce que c'était un gros morceau, et parce que la première fois, lors de la séance introductive, c'est moins approprié. Mais s'il faut que nous passions 4 fois au lieu de 3 ou même 5 à l'étude de ce sujet, moi, je ne dis pas non. Bon,
revenir sur le sujet d'aujourd'hui, une question simplement un peu banale. Une fois, j'ai dit à une non-chrétienne que Dieu nous avait créés pour lui-même, pour sa gloire. Parce qu'elle m'a répondu que c'est un drôle d'égoïste. Alors. Je ne sais pas répondre, je ne dis pas.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu répondre ?
Je pense qu'il aurait fallu répondre d'abord que projeter sur Dieu l'idée d'égoïsme, c'est typiquement le piège anthropomorphique. Que pour Dieu dire « je », c'est radicalement différent, parce qu'il est Dieu, de toute créature qui le dise. Et puis, deuxième point, enfin, bon, j'essaie de répondre quand on me dit ce genre de choses, faire comprendre que la gloire de Dieu, c'est le rayonnement du bien. C'est le bien qui règne. C'est son resplendissement. C'est la diffusion du bien. Alors, c'est ça, il est le bien. Je crois que ce genre de remarque vient vraiment d'une pensée très très myope, procède d'une vision des choses où Dieu est représenté comme un espèce de surhomme régi par les mêmes catégories que nous. Alors, il faut essayer de désorienter la personne qui a une telle vision si restreinte, réductrice.
J'avais pensé après que Dieu n'est pas un homme. Mm-hmm.
Oui. Mais je pense que ce qui peut toucher le plus, c'est de dire la gloire de Dieu, c'est le règne du bien, par définition même. Oui. Oui, s'il a créé pour sa gloire, c'est justement pour diffuser les merveilles de son être, les faire se refléter dans des millions de miroirs. Mais je n'ignore pas quand même la difficulté, cette notion de gloire est quand même difficile à, non seulement à expliquer, mais je dirais à préciser bibliquement. J'utilise, parce que ça me paraît le plus facile, l'image du rayonnement, du resplendissement. Il correspond à l'étymologie du mot grec, gloire, donc ça, et il correspond à l'image de la glorification du visage de Moïse. Donc, nous avons certains appuis bibliques. Mais on n'épuise pas toute l'idée biblique de gloire, par là. Et d'autres aspects sont plus difficiles à cerner, à préciser, ça je le reconnais. L'idée de la gloire comme poids, parce que c'est le sens étymologique du terme hébreu, kavod. Vous voyez, ça met sur une autre piste, et je reconnais que c'est pas facile de parler de la gloire de Dieu. À propos de la gloire, des slogans, mais je trouve que la comparaison de la devise de Calvin et de celle de saint Ignace de Loyola, les deux figures ardentes de la même époque, qui avaient suivi même des cours dans le même collège à Paris, ce contraste est très éclairant. La similitude et le contraste. Calvin, c'est soli deo gloria, gloire à Dieu seul. Saint Ignace de Loyola, c'est ad majorem dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Je dirais que presque toute la différence entre les catholiques et les protestants est là. Le caractère exclusif, c'est Dieu ou les hommes. À Dieu seul la gloire. dans la perspective de la Réforme. Perspective additive chez les catholiques, pour la plus grande gloire de Dieu. On se partage la gloire, mais... Vous voyez, comme cette perspective... Puis en même temps, on pourrait dire qu'il y a l'aspect dynamique de l'esprit jésuite, conquérant, ad majorem, pour la plus grande. Très intéressant de voir comme ils sont proches à certains égards, et en même temps s'opposent, et dans les deux devises, on a vraiment une sorte de résumé de l'opposition. Bon, ça c'était un supplément un peu hors sujet, mais...